Le journal avec vous, Hélène Philly, bonjour.
Bonjour à tous. La flamme se rallume à Tokyo pour des athlètes au mental à toute épreuve. Début des Jeux Paralympiques aujourd'hui, 138 Français engagés. Nous sommes zone directe du Japon. Un sommet face au chaos de Kaboul, réunion d'urgence des dirigeants du G7. Dans l'Afghanistan, où une crise économique pourrait succéder à la crise humanitaire, reportage auprès des habitants. Dans l'actualité encore, Marseille, après les règlements de compte du week-end, le ministre de la Justice est sur place aujourd'hui. Il présente la réforme de la justice des mineurs. Plus de 13 millions de personnes pourront recevoir une nouvelle dose de vaccin à la rentrée. Le ministre de la Santé quasiment catégorique hier soir, alors que le pic de la quatrième vague de l'épidémie est attendu dans les prochains jours. L'hôtellerie, mais aussi le bâtiment ou le commerce manque de bras. C'est le point noir de la rentrée pour les entreprises.
Les réfugiés afghans, le pass sanitaire, la troisième dose, Marseille. On parle de tout cela à 8h20 dans le grand entretien avec Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National. Chers auditeurs, on vous attend aussi au standard 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils affrontent plus qu'un simple chrono et savent comme personne ce que le mot « dépassement » signifie. Plus de 4000 athlètes ont rendez-vous à Tokyo à partir d'aujourd'hui pour les Jeux Paralympiques. C'est vous, Guillaume Batin, qui nous faites vivre ces compétitions en direct ce matin. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, hein, Guillaume, d'un événement qui est de plus en plus suivi, même dans un contexte si particulier.
C'est vrai, la flamme olympique est revenue à Tokyo. Le logo des Jeux Paralympiques trône dans la baie sur une longue barge. Trois virgules, rouge, bleu et verte, ont remplacé les anneaux. Mais la capitale japonaise est de nouveau plongée dans la crainte de l'épidémie, de la cinquième vague. Les cas de Covid ont atteint un nombre record, 25 000 infections quotidiennes, le nombre de malades hospitalisés aussi. Le comité d'organisation appelle les athlètes à la plus grande vigilance sur le village olympique. Et en même temps, il y a l'impatience de voir enfin commencer la compétition. Ce sera pour la nuit prochaine avec la natation, le tennis de table, le sessifoot à partir de 2h du matin.
L'impatience de découvrir les compétitions. En effet, Guillaume, vous restez avec nous le temps de découvrir l'une des grandes chances de médaille française. Sandrine Martinet, qui s'illustre en para-judo. Elle est aussi porte-parole de la délégation tricolore et vous l'avez rencontrée il y a quelques heures.
12 fois championne de France, championne d'Europe, triple championne du monde et médaillée d'or à Rio en 2016. À 38 ans, Sandrine Martinet vise le doublé pour ses cinquièmes Jeux, mais dans la catégorie inférieure, elle passe des moins de 52 au moins de 48 kilos.
Donc bien évidemment, c'est pas simple, mais en même temps, j'ai appris plein de choses, voilà, sur l'équilibre alimentaire et sur moi-même aussi. Donc maintenant, j'aimais pas du tout cuisiner. Maintenant, j'aime beaucoup cuisiner. Voilà, je reste une grosse gourmande quand même.
Mais avant son premier combat vendredi prochain, Sandrine porte le drapeau aujourd'hui.
L'important dans cette campagne, c'est que derrière, on voit les athlètes paralympiques, qu'on soit plus médiatisés, qu'on ait envie de nous suivre, de nous découvrir et que les jeunes qui sont en situation de handicap se disent waouh, je peux avoir cette vie-là, je peux faire ça, on peut rêver et que les parents, pareil, se disent waouh, mon enfant, il a quand même un avenir. Que au niveau de la société, on fasse bouger les choses, qu'on change le regard par rapport au handicap, qu'on mette plus d'inclusion. Et les valeurs du sport doivent servir à notre société. Donc si on peut réussir à faire tout ça, ce sera juste fantastique.
Après Tokyo, Sandrine Martinet refermera une carrière longue de 2 décennies et reprendra son métier de kinésithérapeute à Mâcon.
Sandrine Martinet, son message pour faire bouger les choses. Guillaume Batin, vous êtes toujours avec nous en direct de Tokyo. C'est une chance de médaille, mais ce n'est pas la seule. Quels sont les Français à suivre ?
Alors il y a celui qui sera à ses côtés pendant la cérémonie pour porter le drapeau tricolore, le joueur en tennis fauteuil Stéphane Houdet, champion paralympique en titre également en double, une valeur sûre également avec l'athlète Marie-Amélie Le Fur en saut en longueur et en 400 mètres, Alexis en quinquant en triathlon, Fabien Lamiro en tennis de table, Nelia Barbosa en parakayak, la liste est longue, objectif 35 médailles pour le comité paralympique et sportif français, 7 de plus qu'à Rio pour aller sur la voie des 50 médailles, là c'est l'objectif de Paris 2024.
Guillaume Batin en direct du Japon pour ces Jeux Paralympiques qui vont durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. La cérémonie d'ouverture à suivre donc à 13h, heure française, que l'on suivra avec vous. Et le drapeau de l'Afghanistan sera parmi tous les autres, même si les deux athlètes afghans qualifiés ont dû renoncer à leur participation à cause de la suspension des vols commerciaux et de la situation dans le pays. Le drapeau devait être présent en signe de solidarité pour le président du Comité international olympique.
L'Afghanistan toujours en pleine confusion. Ce ce matin.
Crise humanitaire et peut-être bientôt crise économique, car depuis une semaine et la reprise en main du pays par les talibans, l'argent ne circule plus. À Kaboul, les banques se sont barricadées, les habitants sont au bord de la banqueroute. C'est le reportage de l'envoyé spécial d'RFI sur place, Vincent Souriau.
Nous sommes sur Bank Street, comme on la surnomme, la rue des banques de Kaboul. Mais ce n'est même pas la peine d'essayer. Tout a fermé il y a une semaine, les grilles sont baissées, les distributeurs sont hors service. Et si cet homme vient nous voir, c'est parce qu'il n'y arrive plus. Plus de liquide, plus de quoi nourrir sa famille.
On commence à avoir des problèmes. Un de mes oncles m'a donné 2000 afghanis, ça représente à peu près 20 dollars. Avec ça, je fais ce que je peux. J'achète un petit peu de pain, du riz pour mes enfants. Mais on est au bout de ce qu'on a. Je cherche une solution. Je n'arrête pas de chercher une solution.
Sur le trottoir, il y a aussi ceux qui en profitent. Lui s'appelle Waidullah, sourire aux lèvres, sur sa chaise en plastique. Il agite nonchalamment une grosse liasse de billets. Agent de change, usurier, prêteur sur gage, on ne sait pas trop ce qu'il fabrique. Et lorsqu'on lui demande comment il se procure de la monnaie alors qu'il n'y en a plus à Kaboul, il préfère esquiver la question.
Je me débrouille. C'est pas vraiment officiel. Je connais des gens qui avaient fait des réserves avant la crise. Et on s'entraide.
D'après les témoignages que nous recueillons, le prix des aliments de base, huile, riz, farine, a grimpé de 15 à 20% depuis la prise de pouvoir des talibans.
Un reportage à Kaboul, en Afghanistan. La situation dans le pays qui sera au cœur d'une réunion virtuelle du G7 aujourd'hui. Il s'agit d'assurer des évacuations sûres pour tous ceux qui souhaitent quitter le pays. Plusieurs pays réclament un délai avant le retrait des troupes américaines prévu le 31 août. Les talibans s'y opposent fermement. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour.
Sur cette question, le président américain est dans une position délicate.
Alors Joe Biden est pris en tenaille entre les menaces des talibans et la pression des Occidentaux qui ne croient pas à une évacuation complète d'ici le 31 août. Lors de ce G7, plusieurs pays directement concernés par l'Afghanistan, dont la France et le Royaume-Uni, demanderont à Washington une prolongation des opérations d'exfiltration. Malgré l'accélération du pont aérien et en raison du chaos qui règne à l'extérieur de l'aéroport, ces pays redoutent que l'objectif de l'évacuation ne puisse être tenu d'ici une semaine. L'Allemagne, elle, voudrait que l'aéroport de Kaboul reste accessible au-delà du 31 août, mais discute avec les talibans du fonctionnement des installations après le retrait des États-Unis. Or, la plupart des pays occidentaux considèrent que le départ des derniers soldats américains rendra impossible toute exfiltration ultérieure.
Et comment le président Biden peut-il réagir à cette pression ?
En fait, Joe Biden tente de persuader que la montée en puissance du pont aérien permettra au moins, l'espère-t-il, d'éviter une prolongation de la présence américaine, peut-être une façon de gagner du temps, et d'esquiver le refus catégorique des talibans qui ont menacé hier les États-Unis et leurs alliés de conséquences si le retrait américain était retardé.
Paris aura évacué 2000 personnes d'Afghanistan aujourd'hui. La France est humaine mais aussi vigilante. C'était le tweet du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier soir, alors qu'un Afghan arrivait la semaine dernière en France est soupçonné de lien avec les talibans. Lui et quatre de ses proches sous surveillance, le temps d'évaluer leur lien avec les islamistes. Et puis, en bref, en Tunisie, le président prolonge le gel du Parlement jusqu'à nouvel ordre. Un mois après son coup de force, ni gouvernement ni feuille de route. Il promet de s'adresser à la population dans les prochains jours.
8h09, la campagne de rappel vaccinal s'annonce plus large que prévu.
Elle pourrait concerner les plus de 65 ans, plus de 13 millions de Français donc. Le ministre de la Santé n'a pas attendu l'avis de la Haute Autorité de Santé pour le laisser entendre hier soir, alors que le pic de la quatrième vague est attendu dans les prochains jours. Olivier Véran reste vigilant sur les retours de vacances et la rentrée scolaire, même si les jeunes n'hésitent pas à se faire piquer. Les 12-17 ans peuvent se faire vacciner depuis le 15 juin dernier et déjà 1 sur 2 a reçu une première dose. Ils sont nombreux à passer par le centre d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine où s'est rendue Faustine Calmel.
Pour Chloé, 12 ans, la question de la vaccination a été vite tranchée, trop pressée d'être libérée.
Ça commence à devenir un peu pesant de faire des tests PCR avant d'aller au cinéma, par exemple.
Autre argument, celui de l'école. Dans 9 jours, Capucine fera sa rentrée en 5e et pas question de revivre la classe à la maison, alors elle a bien appris les règles.
S'il y avait un cas Covid, ceux qui avaient leur deuxième dose, ils devaient aller à l'école et ceux qui n'étaient pas vaccinés, ils devaient aller chez eux trouvais pas ça exceptionnel, je préférais être à l'école.
Sur 400 patients accueillis par jour, on est à 10-20% de 12-18 ans.
Depuis début juillet, Isabelle, l'infirmière responsable du centre, tient les comptes face à des familles dont les plus inquiets sont...
En général, les parents. On leur dit qu'il y a eu quand même tout un tas d'études, que ce n'est pas le premier vaccin à ARN messager et que donc il faut peut-être se centrer sur de vraies études plutôt que sur des statistiques et des sondages pas toujours très réalistes.
Mais tous ne sont pas convaincus. Exemple avec Katia et son fils Lucas qui vient de se faire piquer.
Bah, je suis le seul à vouloir le faire.
Je lui en ai parlé, je lui ai demandé son avis. Il m'a dit oui et moi je suis contre. Pas vraiment anti-vax, mais pour l'instant non, je ne suis pas prête. Et il voulait le faire aussi, donc voilà.
Elle attendra l'obligation de son employeur, dit-elle, tout en admettant que peut-être, oui, c'est son fils qui a raison.
Une vaccination utile, même pour les femmes enceintes, message martelé par le Collège national des gynécologues obstétriciens. Après le décès d'un bébé porteur du Covid en Occitanie, sa présidente, le docteur Joël Belaïchalard, avec Cécilia Arbona.
Il faut être vacciné et pour les femmes enceintes, c'est fondamental. Dès le premier trimestre et quel que soit le moment de leur grossesse, on sait que le Covid est grave pour les femmes enceintes, mais on sait aussi, parce que l'an dernier on l'a vu, on a dû césariser effectivement parfois prématurément des femmes parce qu'elles avaient des problèmes respiratoires majeurs liés au Covid et que la grossesse aggrave les problèmes respiratoires. Et oui, comme tout le monde, on a dû, dans toutes les maternités, on a dû faire naître des bébés par voie basse ou par césarienne un peu plus vite qu'il ne le fallait à cause des Covid. On comprend les femmes enceintes en particulier ou allaitantes des angoisses. Est-ce que le vaccin risque de faire du mal à mon bébé? Mais il faut bien leur dire et leur répéter, c'est le Covid qui risque de faire du mal au bébé, c'est pas le vaccin. Donc on comprend leur angoisse, mais elle est mal fondée. L'analyse bénéfice-risque, elle est totalement en faveur de la vaccination pour la femme enceinte. C'est pour se protéger, pour protéger son bébé et pour protéger les autres.
Et la vaccination est conseillée à n'importe quel moment de la grossesse, y compris au cours du premier trimestre. De récentes études récusent tout lien entre vaccination et fausse couche, indique le groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse. Face à l'épidémie, l'économie résiste, les ménages consomment, les entreprises sont globalement confiantes. Seul problème, le manque de bras, un vrai point noir dans certains secteurs, Maxime Debs.
Antonio Molina se définit comme un patron optimiste de nature, mais s'il désespère bien d'une chose, c'est de trouver des personnes qualifiées dans la période pour son groupe Medair, groupe leader sur le marché des peintures industrielles et qui travaille pour des constructeurs automobiles ou encore des acteurs du ferroviaire.
Ça repart vraiment bien, mais maintenant ça fait 6 à 8 mois qu'on cherche et qu'on n'arrive pas à trouver.
Au total, ce sont 8 opérateurs en tout qu'ils cherchent en vain pour ces deux sites, d'Angers dans le Maine-et-Loire et de L'Aigle dans l'Orne, pour honorer un carnet de commandes qui se remplit petit à petit et ça va s'accélérer sans doute avec la rentrée. Motif d'inquiétude pour nombre de chefs d'entreprise, explique Vincent Charlet, directeur général de la Fabrique de l'Industrie.
Il y a besoin de gens pour faire tourner la machine et ceci intervient alors même qu'on pensait que la crise aggraverait le chômage et ça n'a pas été le cas parce que les politiques publiques ont été globalement très efficaces et donc il n'y a pas de réservoir, si on peut dire comme ça, qui viendrait apaiser un peu les tensions sur le marché de l'emploi. Il y a un redémarrage très fort, très vif qui s'exprime et les entreprises peinent à recruter.
Des pénuries de main-d'œuvre qui impactent en premier les secteurs déjà touchés habituellement par le déficit de bras comme le BTP, l'industrie donc, mais également le tertiaire marchand, le commerce ou encore les transports.
Maxime Debs, avant même la convocation demain de la Ligue de foot, les premières sanctions sont tombées après les graves incidents de la fin du match de Ligue 1 entre Nice et Marseille. La tribune des Ultras de Nice fermée pour 4 matchs. Un homme accusé d'avoir frappé un joueur de Marseille a aussi été placé en garde à vue.
Marseille où est attendu le ministre de la Justice aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti.
Et alors qu'une nouvelle série de règlements de compte a fait 3 morts ce week-end sur fond de trafic de drogue, que peut faire la justice pour sortir les mineurs de ces réseaux? Corinne Audouin a posé la question à Nathalie Roche, déléguée du syndicat de la magistrature, juge d'instruction à Marseille. Elle a aussi été pendant 10 ans juge des enfants dans la ville. Les jeunes, dit-elle, sont de plus en plus nombreux à être impliqués et la violence de plus en plus forte.
On voit en tout cas chez des jeunes majeurs ou des mineurs
des personnes qui sont pas impliquées à haut niveau dans les trafics de stupéfiants et qui sont victimes parfois d'actes de torture et de barbarie, de séquestration, qui sont des moyens d'impressionner entre bandes rivales ces jeunes vulnérables qui sont utilisés dans les trafics et qui en plus maintenant peuvent y laisser leur vie ou une partie d'un bras, d'une jambe, d'un œil. C'est très inquiétant en tout cas du point de vue judiciaire.
Que peut la justice face à ces situations?
Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on a besoin de moyens pérenne, réfléchie. Quand un enfant a besoin d'être placé, quand un enfant a besoin d'être éloigné, il a besoin d'une structure éducative pour lui apprendre des choses qu'il n'a pas apprises tout seul. Actuellement, au tribunal pour enfants de Marseille, la prise en charge des enfants pour avoir un accompagnement éducatif, un éducateur, ça peut être entre 12 et 19 mois dans certains quartiers. Donc là, oui, aujourd'hui, il y a un défaut de prise en charge qui est majeur.
Juger mieux et plus vite les mineurs délinquants, objectif affiché de la réforme de la justice des mineurs qui sera détaillée aujourd'hui par le garde des Sceaux. Emmanuel Macron se rendra aussi sur place à Marseille la semaine prochaine. Cette question à présent, un arbre qui vieillit est-il pour autant moins fertile? Un pommier, un pin, un chêne, à quelle période de sa vie intervient le maximum de fécondité? C'est une question essentielle pour comprendre la dynamique des forêts et visiblement on surestime la fécondité des arbres à la sénescence, le grand âge. Explication Sophie Becherel.
Pourquoi un chêne meurt-il de vieillesse alors que chaque année, quand les nouvelles feuilles sortent, elles ont toujours la même efficacité, que l'arbre ait 30 ou 300 ans? Est-ce que son âge, sa taille ou sa maturité déterminent sa production de graines? La baisse de fécondité signe-t-elle le début de la sénescence? Afin d'étudier ces questions, des chercheurs ont passé en revue d'immenses bases de données, réunissant près de 600 000 arbres de 600 espèces différentes réparties sur les 5 continents. Pour 80% des espèces examinées, ces scientifiques de l'INRAE et ceux de l'université de Duke aux États-Unis ont découvert qu'il existe un stade clé qui précède la sénescence. Sylvain Delzon est chercheur à l'INRAE de Bordeaux et co-auteur de cette étude.
Lorsque les arbres ont atteint une certaine maturité après l'âge adulte, et cet âge dépend de l'espèce bien sûr, on observe un déclin de la production de graines ou un plateau. C'est-à-dire que les arbres ne produisent pas de plus en plus de graines. Ce qui a un impact, bien sûr, sur la régénération des forêts.
Les chercheurs se sont aussi rendus compte que l'équation utilisée par les forestiers pour calculer le volume de bois produit par un arbre n'est pas applicable pour obtenir la fécondité. Il est faux de croire que plus un arbre est grand et vieux, plus il produit de graines. Cela a conduit à surestimer le potentiel des forêts à se régénérer, une information essentielle pour prédire leur devenir, alors qu'elles sont aujourd'hui fragilisées par le réchauffement climatique.
Et une raison de plus d'en prendre soin. Prendre soin de nos forêts, le journal d'Hélène Philly, le coup d'œil sur le ciel.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Marie-Pierre Planchon, bleu le ciel ce matin, le soleil est au rendez-vous.
Et oui, Hélène, grâce aux conditions anticycloniques qui ont dégagé une bonne partie du ciel, mais le positionnement de cet anticyclone fait rentrer une bonne bise de nord-est qui souffle donc de la Manche jusqu'au Lyonnais. En revanche, vous avez de nombreux nuages bas quand même du Val-de-Loire à l'Auvergne. Des nuages qui vont se dissiper. À noter quelques brouillards comme hier au nord de la Bretagne et au nord du Cotentin et des averses orageuses qui arrosent déjà l'intérieur de la Provence jusqu'aux Alpes du Sud. Et puis c'est un peu frais ce matin du côté du Jura à Mout, par exemple, pas plus de 7 degrés, alors qu'il fait déjà 23 sur la baie des Anges ou à Calvi.
Et les orages qui éclatent sur le sud-est dans l'après-midi.
Oui, et ces orages apporteront un bon arrosage des hauteurs provençales au Var jusqu'au Savoie. Un orage pourrait également se déclencher sur l'est des Pyrénées sur le relief corse. Mais sinon, partout ailleurs, vous pouvez profiter du beau temps avec quelques bourgeonnements quand même, mais sous le vent. Cette bonne bise de nord-est va souffler jusqu'à 60 km par heure vers la Manche jusqu'au Lyonnais encore et qui empêchera donc le mercure de grimper très haut. Il fera 22 à Étretat, 23 à Lille et Belfort, 24 à Paris, comptez 25 à Rennes, 26 à Bourges-et-Lyon. Il fera 27 à Mont-de-Marsan, 28 à Saint-Raphaël, 29 sur la plage du Prado à Marseille ou à Ajaccio et 30 sur la plage de Canet-en-Roussillon.
Marie-Pierre Planchon, à tout à l'heure. 8h19, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, sur France Inter.
Avec vous, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Angela Merkel était en Ukraine dimanche.
Pour une dernière visite de travail, alors qu'elle s'apprête à abandonner la chancellerie après les élections législatives du 26 septembre prochain. Cette visite en Ukraine, après celle à Moscou vendredi, est-ce qu'on a pris l'habitude d'appeler une tournée d'adieu? Le rituel est assez éprouvé, hein. La chancelière est accueillie avec des assauts d'amabilité et des honneurs tout particuliers. Elle a par exemple été la première leader européen à être reçue à la Maison-Blanche par Joe Biden avant même même Boris Johnson à Londres. Elle a eu droit début juillet à une rencontre en tête-à-tête avec Bojo à Chequers, la résidence secondaire des premiers ministres britanniques, et à un thé d'adieu avec la reine à Windsor. Samedi prochain, elle sera en Israël.
Ces ultimes voyages servent-ils à quelque chose?
Alors, absolument à rien. Le meilleur exemple est sa visite à Moscou. C'est le pays qu'elle a avec la France le plus visité au cours de ses 16 années de pouvoir. Pas moins de 20 voyages officiels. Or, pour sa dernière visite, elle n'a même pas obtenu un geste. Elle pensait sincèrement que le sort d'Alexei Navalny pouvait être allégé par son plaidoyer. Vladimir Poutine ne lui a même pas fait ce plaisir. Il a par contre cruellement souligné combien, en ce moment, c'est lui qui avait la main en Afghanistan, alors que l'ambassade russe fonctionne normalement à Kaboul et que les leaders européens en sont réduits à appeler Vladimir Poutine pour tenter une médiation avec les talibans. Et il s'est même permis de demander à Angela Merkel de porter un message en Ukraine. Dites-leur de respecter à la lettre l'accord de Minsk de 2014, puisque vous en êtes garant. En clair, il a donné l'impression que l'Allemagne était une sorte de petit télégraphiste des intérêts russes auprès de Kiev. Avouez que c'est tout de même très humiliant.
Et que va-t-il rester alors de ces années de politique étrangère?
Un peu de choses. Si l'on regarde de près, l'Ukraine est un bon exemple. En 2008, avec Nicolas Sarkozy, elle a stoppé toute velléité d'adhésion de Kiev à l'Alliance Atlantique. L'idée était de ne pas brusquer Moscou. Vladimir Poutine en a tiré la conclusion que l'OTAN n'interviendrait ni en Géorgie ni en Ukraine. Et il avait raison. Le cessez-le-feu péniblement négocié en 2014 avec Moscou fige l'occupation d'un tiers du territoire ukrainien et l'annexion de la Crimée. Même son legs européen est contesté. Elle a elle-même reconnu ses erreurs sur le dossier grec entre 2008 et 2012. Alors à sa décharge, c'est à cette erreur que l'on doit la plus grande avancée, ou la seule grande avancée européenne en 15 ans, la création de dettes communes. Il y a malgré tout sa résistance à Donald Trump. Elle n'a jamais transigé ni tenté de l'amadouer, comme Emmanuel Macron avec le dîner